ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les gens sur Terre, ils ont du mal à s'entendre. Querelles politiques, rivalités religieuses, discriminations ethniques, lutte des classes, guerre des sexes, le conflit est partout. On le constate à l'échelle du monde assez facilement en regardant les informations à 20h, mais on le constate aussi à l'échelle de notre propre vie. Comme c'est difficile, parfois, de s'entendre avec les gens qui nous entourent, avec mon patron, avec mon collègue, avec mon voisin, avec ma belle-mère, avec mon frère ou ma sœur, avec mes parents, avec mes enfants, et bien sûr, avec mon conjoint. Les gens sur Terre ont du mal à s'entendre, et franchement, c'est pas un scoop. La Bible dresse également ce constat et en fait nous en donne une explication réaliste depuis bien longtemps. Et cette explication, c'est la suivante, c'est que les hommes sont comme des ordinateurs qui fonctionnent sous Windows, ils sont dysfonctionnels par nature. Et donc, de la même façon que je m'énerve contre mon PC quand il bug, quand il rame, quand la page ne charge pas aussi vite que je le voudrais, eh bien, de la même façon, je m'énerve aussi contre mon prochain parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Le truc, c'est que lui, il s'énerve contre moi aussi parce que chez moi aussi, il y a des bugs, ça rame, ça charge pas comme ça devrait, et chez moi aussi, il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi, je suis dysfonctionnel. Et quand on se marie, ces dysfonctionnements apparaissent en plein jour. En tout cas, entre les deux conjoints. Et c'est pourquoi certains des conflits les plus douloureux de notre vie ne se jouent pas sur les quais de la SNCM, comme cette semaine, où des habitants corses ont caillassé des navires. Ils ne se jouent pas ces conflits dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais certains des conflits les plus douloureux de notre vie se jouent tard le soir dans la chambre à coucher. Les plus hautes instances politiques se posent d'ailleurs la question depuis longtemps de savoir comment résoudre cette atmosphère conflictuelle que l'on constate entre les hommes, si bien qu'un terme est né il n'y a pas très très longtemps et qui est pas mal en vogue depuis quelques années dans les discours de nos gouvernants, le fameux « vivre ensemble ». Même le Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, ou peut-être pas très fameux, il organise chaque année une grande conférence sur ce thème, pour essayer de voir comment on pourrait favoriser le vivre ensemble. Je me demande s'ils seraient prêts à consulter la Bible à ce sujet, parce que la Bible, en effet, a des choses à dire là-dessus. Et ce qu'elle dit sur le vivre ensemble entre les hommes s'applique par excellence au vivre ensemble dans le mariage. Et le texte que je suis sur le point de lire, vous allez le voir, nous livre en effet cette leçon toute simple. C'est que l'Évangile aide efficacement les gens à bien s'entendre. L'Évangile aide efficacement les gens à bien s'entendre. Voici la lecture tirée donc d'une épître de saint Paul dans le Nouveau Testament. Et vous avez le texte d'ailleurs dans le petit feuillet bleu si vous souhaitez suivre cette lecture. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé à la lecture de ce texte, mais peut-être que vous êtes resté bloqué sur cette accumulation de verbes à l'impératif. Et peut-être que vous vous êtes dit, ben chouette, encore un texte moralisateur, rien d'original finalement. Sois gentil avec les gens, fais de ton mieux, ça ira mieux peut-être. Alors si c'est tout ce que vous avez entendu, si c'est tout ce que vous avez retenu de ce texte, c'est que vous en avez raté une bonne moitié. Parce que ce que je voudrais vous faire remarquer dans ce texte, c'est que contrairement à un discours moraliste qui ne renvoie les gens qu'à eux-mêmes, qu'à leurs propres ressources, qu'à leur propre capacité morale ou incapacité morale. Contrairement donc à ce type de discours moraliste, eh bien ce texte renvoie constamment ses destinataires, non pas à eux-mêmes, mais à des réalités qui leur sont extérieures, objectives. Il renvoie le lecteur, par exemple, à l'amour de Dieu, verset 12, à la grâce du Christ, verset 13, à la paix du Christ et à l'unité de l'Église, verset 15, à la parole du Christ, au texte qui révèle cette parole, verset 16, et même au nom du Seigneur lui-même, verset 17. Vous voyez, ce sont des réalités ici, pratiquement à chaque verset, qui ne se trouvent pas en nous, et que nous ne risquons pas de trouver si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce sont des réalités qui se trouvent en dehors de nous, des réalités externes. Pour le dire simplement, la Bible se démarque radicalement de tous les discours moralistes que vous pourrez jamais entendre, que ce soit dans les manuels de morale ou d'instruction civique, que ce soit dans les séminaires de coaching personnel, que ce soit dans les conférences du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. La Bible se démarque radicalement de tous ces discours de type moraliste. Pourquoi ? Parce que la Bible affirme que les hommes ne peuvent pas trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour vraiment et durablement vivre en paix les uns avec les autres. Les hommes ont besoin d'un secours extérieur. C'est comme un ordinateur dysfonctionnel, hein. Il ne peut pas se réparer tout seul. C'est comme quelqu'un qui serait atteint d'un cancer. Ça ne servirait à rien de lui dire simplement « Vas-y mon ami, on est là pour t'encourager, tu vas y arriver, tu as ce qu'il faut en toi pour aller mieux, fais un effort ». Les encouragements, ça sert, bien sûr, c'est utile. Mais ce dont la personne a vraiment besoin dans ce cas, c'est d'une intervention extérieure, n'est-ce pas ? Et donc le moralisme, c'est une impasse, d'après la Bible. Et ce n'est pas simplement en vertu de nos efforts et de notre bonne volonté qu'on va réussir à vraiment bien s'entendre et à s'entendre durablement avec notre prochain et à plus forte raison avec notre conjoint, avec qui on ne peut plus cacher ses dysfonctionnements, ses défauts, ses infirmités, avec qui on ne peut plus appliquer des remèdes superficiels à nos dysfonctionnements. Ils apparaissent comme en plein jour dans le cadre du mariage. La Bible est réaliste à ce sujet. Alors ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Mais la Bible n'a pas que des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Heureusement, maintenant, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle que la Bible nous annonce, et d'ailleurs c'est le sens du mot « évangile » en grec, le texte nous fait comprendre ici qu'il y a bien un secours disponible, il y a bien une réalité extérieure et objective sur laquelle nous pouvons nous appuyer efficacement pour pouvoir bien nous entendre. Ce secours, évidemment, et il n'y a pas là de scoop non plus, il se trouve en Dieu. Mais justement, Le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu moraliste qu'on s'imagine parfois. Le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu tyran qui nous donne sa loi, ses exigences et qui nous dit d'y obéir si on veut avoir une chance de mériter sa faveur, si on veut avoir une chance que ça aille mieux dans notre vie. Il n'est pas comme ça, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas d'abord un Dieu qui donne des instructions. Le Dieu de la Bible, c'est d'abord un Dieu qui intervient pour sauver. Vous avez peut-être vu le dessin animé « Le prince d'Égypte » qui raconte assez fidèlement, je trouve, l'histoire de l'exode des Israélites. Vous savez, sous la conduite de Moïse, quand ils se sont échappés de l'Égypte. Et ce qu'on voit dans ce film, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la première chose que fait Dieu pour son peuple, au début de l'histoire, c'est pas qu'il lui donne les 10 commandements. La première chose qu'il fait pour son peuple, c'est qu'il les délivre de l'esclavage. Le Dieu de la Bible, le Dieu judéo-chrétien, c'est d'abord un Dieu qui sauve. Et c'est comme ça qu'il agit avec les hommes. Et c'est sur la base de son salut que les hommes ensuite ont non seulement l'envie, mais aussi la capacité ou les moyens de suivre Dieu. Et dans le texte qu'on a lu il y a quelques instants, à chaque mention qui est faite de Dieu ou du Christ, l'auteur, qui est l'apôtre Saint Paul, il présuppose ce que Dieu a fait par excellence dans l'histoire pour venir au secours des hommes dans leur dysfonctionnement. Et il en a parlé d'ailleurs dans les chapitres précédents de cette lettre qu'il est en train d'écrire à des chrétiens de son époque. Ce que Dieu a fait par excellence dans l'histoire pour venir au secours des hommes dans leur dysfonctionnement, c'est qu'il a manifesté son amour pour les hommes par la venue d'une personne, la venue de Jésus, son Messie, qui a pris sur lui nos dysfonctionnements, nos défauts, nos infirmités, nos fautes, il les a pris sur lui et il les a portés jusqu'à leur issue ultime, qui est, d'après la Bible, la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais il a fait ça pour nous en délivrer. C'est un acte d'amour, un acte de grâce. Vous savez, un ordinateur qui fonctionne mal, l'issue ultime de son existence, c'est la déchetterie, hein. Enfin, c'est logique, quoi. Ça ne va pas en s'arrangeant, un ordinateur qui fonctionne mal. L'issue ultime de tout appareil dysfonctionnel, à moins d'une intervention efficace, c'est la benne. Et c'est la même chose quand on est malade, d'ailleurs. Il y a des maladies plus ou moins graves, et là, je ne vais rien apprendre à nos mariés au sujet de la maladie et de leur remède, n'est-ce pas ? Mais toutes les maladies tendent vers une direction. Ce n'est pas vers une amélioration qu'elles tendent, les maladies. Elles tendent, en fait, vers la mort du sujet malade, à moins d'un remède efficace, à moins d'un médecin éclairé. Et la Bible explique que le remède efficace que Dieu nous offre pour nos dysfonctionnements à notre tour, c'est la personne et l'œuvre de Jésus, qui s'est substitué à nous, qui est mort à notre place et qui est ressuscité, d'après la Bible, afin de nous délivrer, afin maintenant de déployer sa grâce dans notre vie. Et donc, si nous lui faisons confiance, si nous lui sommes attachés par la foi, alors il compte nous sauver, il compte nous réparer, il compte nous guérir, il compte nous transformer. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que l'Évangile aide efficacement les gens à bien s'entendre. L'Évangile aide efficacement les gens à bien s'entendre. Comment puis-je aimer mon prochain malgré ses défauts ? Comment puis-je aimer de manière sacrificielle mon conjoint alors qu'il m'énerve tellement parfois ? J'ai pas ce genre d'amour en moi. Je le trouve pas en moi. Comment puis-je vivre en paix avec ma femme ou mon mari ? Comment puis-je être un artisan de paix dans mon foyer et auprès de mon entourage alors que j'ai pas la paix en moi-même ? Comment faire ? Comment puis-je pardonner à mon conjoint ? Comment puis-je pardonner à mon époux ou mon épouse alors que c'est complètement au-dessus de mes forces ? Le texte ici nous dit ceci : ne cherche pas en toi-même. Ne cherche pas en toi-même, c'est peine perdue, tu ne trouveras pas les ressources nécessaires pour y arriver. Regarde plutôt à Dieu et surtout, regarde à ce qu'il a fait par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Si tu lui es attaché par la foi, ça change tout, ça change tout. Ça fait de toi, si tu fais confiance à Jésus, ça fait de toi l'objet de l'amour de Dieu, de sa grâce. Ça fait de toi le destinataire de sa paix, le destinataire des promesses de sa parole. Ça change tout. Et c'est à ces réalités-là, objectives, extérieures à nous-mêmes, que tu dois regarder maintenant. Maëlys et Denis, vous pouvez vous aimer quand bien même l'autre vous paraîtrait détestable parfois. Vous le pouvez parce que Dieu vous a aimé le premier. Il vous a aimé de manière sacrificielle et vous pouvez vous appuyer sur son amour pour aimer à votre tour. Elle est là la ressource pour y arriver. Vous ne la trouverez pas en vous-même. Vous pouvez vous pardonner l'un l'autre lorsque l'autre vous aura fait tant de mal. Parce que Dieu vous a pardonné le premier. Il en a payé le prix et vous pouvez vous appuyer sur son pardon pour pardonner à votre tour. Vous pouvez vivre dans la paix, être des artisans de paix dans votre foyer et auprès aussi des gens qui vous entourent parce que Dieu a fait la paix avec vous. Et si vous êtes en paix avec Dieu, vous pouvez bien être en paix l'un avec l'autre. Alors, chers Maëlys et Denis, chers mari et femme qui êtes présents aujourd'hui, chers amis, chers chers hommes politiques, chers philosophes, chers membres du Conseil économique, social et environnemental, comment donc favoriser le vivre ensemble? La Bible nous offre cette réponse qui me semble réaliste. Le moralisme, c'est une impasse, parce que les hommes n'ont pas ce qu'il faut en eux pour y arriver. Mais il y a un remède objectif qui nous vient en l'Évangile, où Dieu lui-même nous réconcilie avec lui pour que nous puissions être réconciliés à notre tour avec les autres. Et cela non pas sur la base de nos forces, non pas sur la base de nos capacités morales, non pas sur la base de ce qui se trouve en nous, non pas sur la base de nos mérites, mais uniquement en vertu de la grâce débordante de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est donc à lui que nous devons être fermement attachés par la foi chaque jour de notre vie. C'est à lui que nous devons regarder plutôt qu'à nous-mêmes chaque jour de notre vie. Amen.